Let me call Gael Demestre up to take my seat, please. I want to thank everyone here for being good about wearing these masks. I'm sorry we can't see each other smile, but every one of us who wears these brings closer the day when we don't have to worry about this virus spreading among us. So thank you all. Dr. Demestre is here from the... She's the director of the Institute for the Study of Modern Representations and Ideas at CNRS in Lyon. And appropriately, she's going to speak today on what is a modern political revolution.
Oui, merci, Monsieur le Président de Séance. Donc moi aussi, j'aimerais remercier Yad de me donner l'opportunité de... l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Et je souhaiterais préciser que, donc, on a intitulé mon intervention « Qu'est-ce qu'une révolution politique moderne ?» J'aurais plus une attitude de théorie des idées par rapport à un fait politique et révolutionnaire acté, la révolution américaine du XVIIIe siècle. Alors, la double qualification d'une révolution par politique et par moderne, permet d'éclairer le fait révolutionnaire en distinguant plusieurs formes. Caractériser une révolution comme moderne renvoie au moment historique où émerge la revendication d'une rupture avec l'ancien monde, incapable de répondre aux nouvelles exigences de respect des droits de l'homme, de liberté et de justice de la société civile. On considère généralement que la modernité politique s'ouvre avec les révolutions américaines et françaises du XVIIIe siècle, qui renversent leur gouvernement pour instaurer une nouvelle cité fondée sur ses principes. Elle recouvre à la fois la conscience qu'avaient les contemporains de l'événement et le regard que porte aujourd'hui l'historiographie contemporaine sur elle comme un rappel du message éthique qui reste rattaché à ces révolutions. Le qualificatif de politique, pour sa part, invite à considérer plus précisément les dimensions de la cité englobées par l'exigence révolutionnaire et à distinguer les révolutions visant à transformer les structures de la société et celles qui visent à changer les structures de l'État. Si la Révolution française constitue le modèle de la Révolution sociale moderne, c'est à la Révolution américaine en général que revient d'incarner son versant politique. L'objet de mon intervention sera de montrer en quoi la révolution américaine peut avoir valeur de modèle pour caractériser ce type de révolution, la révolution politique. Les historiens ont un temps hésité à la qualifier de révolution avec un grand R en comparaison de la révolution française, caractérisée par un chamboulement total de la société. Et elle ne partage de fait ni la visée universaliste, ni l'instrumentalisation de la violence propre à cette dernière. Mais cet angle de comparaison extrême, radical, a le tort de voiler l'importance des innovations politiques introduites par les Américains pour bâtir leurs institutions et de minorer la part d'incertitude et de crainte qui la traverse, de passer sous silence concrètement tout ce qui aurait pu la faire basculer en son inverse. C'était il y a 200 ans. Donc, si vous voulez, nous, on l'a acté, mais non, c'était bien plus compliqué à l'époque. Il rend aveugle à tout ce que le processus révolutionnaire américain a transformé de l'esprit révolutionnaire initial. Comprendre la révolution américaine, c'est donc d'abord distinguer trois temporalités différentes. L'épisode révolutionnaire de 1776, qui traduit la crise insoluble des institutions coloniales et le délitement total de l'autorité politique, aboutissant, comme on le sait, en 1776, à la ressaisie du pouvoir par le peuple américain. Le processus révolutionnaire de 1776 à 1786, où les Américains cherchent à concrétiser les exigences révolutionnaires en forgeant un système institutionnel capable d'accueillir une société libre et égalitaire. Un processus au cours duquel les débats se déplacent, les exigences se reformulent. Et, le troisième moment, acté par l'adoption en 87 de la Constitution fédérale. qui opère une médiation entre ces deux moments en faisant entrer le gouvernement américain dans le cours régulier du fonctionnement démocratique. Alors, je reviendrai successivement sur ces trois moments pour faire ressortir les mutations opérées par le peuple américain pour réussir à ancrer l'esprit de leur révolution dans l'histoire et pointer au passage ce qu'elle a de commun avec le fait révolutionnaire en lui-même. Donc, premier moment, donc la configuration de la révolution américaine aboutissant à la déclaration d'indépendance, donc une période qui s'étend en gros de 65 à 76. Signalons d'abord la spécificité du peuple américain de cette époque. La rupture entre un peuple et son gouvernement est propre au fait révolutionnaire, mais elle prend une configuration particulière en fonction des sociétés concernées. Le peuple américain présente à cet égard des spécificités uniques en son temps. Sa première caractéristique centrale, qui fait sa grande différence avec la situation française, est que la société américaine n'est pas dépendante d'une histoire et d'une pratique millénariste qui auraient déjà façonné en profondeur ses liens et l'imaginaire collectif. Les colons américains n'ont pas à combattre un ennemi intérieur, mais à s'émanciper de la tutelle anglaise. Le peuple américain est d'autre part déjà socialement organisé sur la base de ce que l'on considère aujourd'hui comme des valeurs modernes, c'est-à-dire, premièrement, des relations sociales fondées sur l'égalité anthropologique, hein, qui reconnaît chaque homme comme libre et dépositaire de droits, et donc absence de hiérarchisation de la population fondée sur l'origine sociale. Deuxièmement, la reconnaissance de l'autonomie individuelle, c'est-à-dire de la capacité à gouverner sa vie et à juger de ce qui est bon pour son pays. Ce que Tocqueville appelle le dogme de la souveraineté du peuple. Et troisièmement, une société habituée à s'autogouverner, où l'on reconnaît la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la jouissance d'une large liberté individuelle, économique et sociale. Les Américains présentent également la singularité territoriale d'être répartis sur de vastes territoires possédant déjà une administration politique. Certes, elle était sous dépendance des magistrats royaux britanniques, mais l'exercice de ces diverses charges revenait déjà aux colons. Ensuite, voilà donc pour la situation en gros. Ensuite, les circonstances de l'épisode révolutionnaire. Alors, le phénomène déclencheur du mouvement révolutionnaire, à proprement parler, est antérieur de plus de 10 ans à l'épisode révolutionnaire de 76. Il englobe des raisons politiques et économiques. Politique d'abord parce que dans les années 60, pour maintenir l'armée britannique dans les colonies et résister à la contrebande des négociants de Boston, l'Angleterre décide d'activer le writ of assistance, hein, le mandat général de perquisition qui autorise les agents de douane anglais à contrôler le paiement des taxes sur les importations et exportations américaines. Évidemment, les Américains perçoivent ça comme une ingérence dans leur domaine privé. Économique ensuite, parce qu'après la guerre de 7 ans, l'Angleterre, qui souffre d'un fort déficit financier, prend des mesures pour favoriser son économie et lève régulièrement des impôts indirects sur le commerce américain, ce qui engendre des mouvements de contestation de plus en plus vifs. On garde en mémoire la résistance en 67 de la population bostonienne au Tom's Hands Act, des lois Townsend, qui aboutit au massacre de Boston ou la fameuse Boston Tea Party de la fin 73. Mais la répression armée britannique a l'effet inverse de celui escompté. Plutôt que de restaurer l'ordre sein des colonies, elle précipite la perte de légitimité des gouverneurs anglais en devenant emblématique des mesures tyranniques imposées depuis plus de 10 ans aux colons. Et là, le tour de force des Américains est de court-circuiter la logique de la violence en ramenant leur opposition sur le plan des principes. Ils placent en fait les Américains en contradiction avec eux-mêmes. Les Américains, grâce à leur glorieuse révolution de 68, étaient parvenus à imposer dans leur constitution l'approbation de toute taxe par les représentants du peuple. Comment, dans ce cas-là, pouvaient-ils autoriser la levée de ces taxes alors que les colons ne disposaient pas d'un droit de représentation entre guillemets réel, ce qui contredit un peu la notion virtuelle, mais bon, le droit de représentation au Parlement. Les impôts à l'origine, de façon cohérente, les impôts à l'origine des révoltes américaines auraient dû être considérés comme illégaux, hein, et la répression jugée tout aussi illégitime. Cette critique précipite l'effondrement des officiers royaux, qui sera définitive après l'éclatement des combats avec l'armée anglaise en 1975. Les années 70 voient déjà croître la parution de pamphlets cinglants contre la couronne. Ils en appellent à une union préfigurée par le Congrès continental que les Américains instituent en 74 sous la pression des événements. C'est de là que va partir la rupture politique. Suite à l'échec des deux congrès de 74 et 75 pour trouver un compromis avec l'Angleterre, le Congrès se réunit à nouveau le 10 mai 76 et ordonne à chaque colonie de se doter d'un gouvernement légitime. En prenant cette décision, le Congrès acte en soi le fait révolutionnaire, en rompant toute négociation possible avec la couronne. Et à l'époque, même si aujourd'hui, a posteriori, nous le relisons comme vraiment l'acte décisif de sécession, entre guillemets, à l'époque, cet événement n'avait rien d'extraordinaire en soi. Les Américains le conçoivent comme la suite rationnelle d'un enchaînement d'événements. Le résultat donc, de cette prise de décision du Congrès, l'aboutissement de l'épisode révolutionnaire, est acté par la déclaration d'indépendance votée à Philadelphie le 4 juillet 1776. Alors ce texte est remarquable à plus d'un titre, mais ce qui surprend le plus aujourd'hui est qu'il se formule quasiment dans les mêmes termes que la déclaration d'indépendance des Provinces-Unies, qui, par l'acte d'adjuration de 1581, avait déposé leur souverain Philippe II d'Espagne. Donc je reprends les termes de la déclaration américaine, qui sont similaires. Elle souligne la tyrannie, le despotisme du gouvernement anglais qui, par des abus multiples et répétés, usurpe son pouvoir, renverse ses institutions et poursuit le projet délibéré et systématique de réduire les Américains en esclavage. Et, fait important, malgré les tentatives réitérées pour faire reconnaître leurs droits de citoyens britanniques, les Anglais ont, comme les Espagnols, systématiquement rompu les négociations en répondant par une politique de plus en plus violente. Face à cette impasse, le peuple américain n'a pas d'autre choix que de se dégager de son devoir d'obéissance et de reprendre le pouvoir qu'il avait transféré à la couronne. Alors, il n'est pas anodin que ces deux déclarations distantes de deux siècles se formulent en partie dans les mêmes termes. Les Américains sont, comme les Provinces-Unies, des colonies d'une puissance monarchique à visée impérialiste. Cette similitude inscrit également le mouvement révolutionnaire américain dans la continuité des débats qui agitent l'Europe depuis le XVIe siècle. Les deux déclarations se fondent sur la doctrine politique contractualiste, propre à la modernité, selon laquelle le peuple transfère ses droits politiques aux gouvernants sur la base d'un contrat réciproque contraignant qui délie les parties si l'une d'elles contrevient à ses termes. Cette thèse d'une obéissance conditionnelle permet aux représentants des États-Unis de déduire que la couronne, ayant rompu son devoir de protection et de justice envers les Américains, le droit l'autorise à s'émanciper du joug anglais. Mais la déclaration américaine opère une césure majeure avec cette tradition en introduisant la référence à l'homme comme sujet de droit. L'adjuration des Provinces-Unies est faite au nom de la défense des libertés et privilèges des 7 provinces alliées, les provinces du Nord. Elles entendaient par là reconstituer leur communauté en rétablissant ses droits et libertés. Les Américains, eux, placent au centre de la politique la protection des droits inaliénables de l'homme, la liberté, la vie et la recherche du bonheur. On n'est plus ici dans la logique de la communauté, on est passé dans la logique de la société. C'est une nouvelle forme de société qui se dessine à ce niveau-là, que les Américains entendent fonder à partir de l'individu. Donc là, on a vraiment un passage dans ce qu'on appelle la deuxième modernité. Bon, alors voilà pour le premier temps d'éclatement de l'acte révolutionnaire. Alors maintenant, on va considérer la deuxième période, le moment de reconstruction politique qui s'opère des années 76 en gros à 86, jusqu'à la faillite de la première union politique, la Confédération. Donc, après ce premier moment de ressaisie du pouvoir, marqué par la profonde unité des colons autour d'un même projet et d'un espoir commun, s'ouvre la période la plus délicate d'une révolution, celle de la construction de ces nouvelles institutions. Donc on entre dans le deuxième temps de la révolution, celui du processus révolutionnaire qui doit parvenir à incarner l'esprit de la révolution. Donc cette étape, plus ou moins longue, est toujours à haut risque, parce que les citoyens se retrouvent dans un entre-deux, sans filet, et qu'ils doivent parvenir à traduire sur le plan institutionnel les exigences manifestées lors de l'épisode révolutionnaire. Alors, chez les Américains, le processus révolutionnaire s'étend sur à peu près 10 ans, hein, donc 76 à 87 à peu près. Il est marqué par une subjectivité chargée, mais très différente de celle des Français de l'époque. Leur révolution est étrangère à l'espérance eschatologique qui anime les révolutionnaires français. Les Américains entrent dans le régime d'incertitude, pour reprendre les termes de Claude Lefort, une incertitude mêlée d'espoir et de crainte, qui traduit à la fois cet émoi dont parle John Adams, je cite, hein, d'être le premier peuple à avoir la chance de pouvoir choisir la forme de son gouvernement, je cite encore, d'édifier les fondements permanents de la liberté. Ce sentiment de ne disposer d'aucun modèle pour le faire. Alors, la première difficulté à laquelle ils se heurtent est la nature de leur union. Les États sont bien conscients qu'ils doivent s'allier pour maintenir entre la paix, mais après le premier moment de prise de conscience d'une unité profonde face à l'Angleterre, les leçons de l'histoire les rendent réticents à envisager une union plus forte. La constitution d'un pouvoir central fait planer le spectre de la monarchie, qui est perçu comme un retour en arrière et un renoncement à la liberté acquise par la Révolution. Le 15 novembre 1977, le Congrès continental se prononce donc en faveur d'une union politique souple, qui prend la forme d'une confédération et qui entre en vigueur en mars 1981, après la reddition de l'Angleterre. Mais comme cette confédération est conçue comme une alliance sans abandon ou transfert de souveraineté des États, les résolutions du Congrès restent des recommandations, donc purement optionnelles dans l'application, restent aux États. Et même si le Congrès a joué un rôle moteur jusqu'à la fin de la guerre avec l'Angleterre, une fois la menace anglaise écartée, les États s'approprient des compétences qui théoriquement devraient revenir au Congrès. Ils violent les traités, les articles qui ne leur sont pas favorables. La confédération de 81 demeure une confédération d'États souverains. Et le Congrès, comme l'appelle John Adams, une assemblée diplomatique qui n'a pas de réelle existence. Donc cette première union politique révèle rapidement ses faiblesses. En plus de son impuissance gouvernementale, elle s'avère incapable d'encadrer la réalité sociale du jeune pays libre. Et paradoxalement, comme le signale Gordon Wood, ce ne sont pas les tentatives de renforcement des pouvoirs du Congrès par le groupe minoritaire des nationalistes ou fédéralistes qui précipitent la faillite de la Confédération, mais les mouvements de remise en cause de la souveraineté des États par leur population. Et là, je retrouve le divorce entre les deux classes que vous signaliez tout à l'heure. Donc ça touche là la deuxième facette du processus révolutionnaire américain, c'est-à-dire donc la reconstruction des États. Pour les Américains, l'étape essentielle du processus révolutionnaire consistait à former par eux-mêmes les gouvernements de leurs États. Et contrairement à la question de leur union, celle de leur reconstruction a donné lieu à une effervescence de débats, de publications, de discussions de tous ordres. Et très rapidement a émergé la véritable question au centre de leur révolution politique, celle de la relation adéquate entre le peuple et ses gouvernements, ses représentants. En rejetant le principe britannique de la représentation virtuelle, les Américains ne dénoncent pas seulement le fait de ne pas voir leurs intérêts pris en compte par le pouvoir. Les débats, donc qui extrêmement forts et nombreux à l'époque, font ressortir une critique bien plus radicale du principe majeur de la théorie politique selon lequel le pouvoir a pour fin le bien commun du peuple. La représentation virtuelle, donc de tradition britannique, est attaquée parce qu'elle présuppose deux réalités homogènes, le peuple et le bien commun. Les Américains dénoncent ces notions comme des abstractions et leur substituent, donc c'est ce qu'on trouve à la lecture donc de ces publications, ils leur substituent l'hétérogénéité du peuple et la diversité des intérêts. Donc les retombées de l'introduction de ces deux principes n'apparaissent pas immédiatement. Mais il devient évident que cette exigence de prise en compte, donc de nouvelles références qui entrent sur le devant de la scène, les contraint à opérer un bouleversement profond de la théorie et de la pratique politique. Comment représenter la pluralité des intérêts ? Que peut représenter le pouvoir si la société est multiple ? Et que doit-il viser s'il n'existe pas de fin commune ? Dans les années, donc là, justement, j'étudie d'abord le niveau politique. Donc, dans les années 70, cette question de la représentation oppose deux courants interprétatifs. Le courant républicain des vieux Whigs, qui reconnaît la diversité des intérêts, mais maintient que les délibérations des législateurs doivent être guidées par le bien commun. Et le courant politique contractualiste, qui soutient à l'inverse que l'Assemblée doit être le miroir en miniature du peuple, comme le formule John Adams, et donc que la représentation doit exprimer la diversité des intérêts. Le courant républicain, qui reprend la thèse classique de la représentation législative, affirme la souveraineté du peuple par la voix de ses représentants. Ses adversaires lui opposent cependant deux critiques décisives qui vont faire basculer la balance. Les colons composent une population très hétérogène avec des intérêts extrêmement variés. Comment serait-il possible de les représenter sous la catégorie englobante de volonté du peuple ? Comment pourrait-on dégager une volonté d'une telle diversité ? Et deuxième point aveugle, pourquoi et comment pourrait-il y avoir un bien commun à l'ensemble de ces populations ? Donc visiblement, le système de représentation hérité de la tradition, ici, ne permet absolument pas de répondre à la configuration américaine. Donc, au terme de vifs débats, le principe de la représentation réelle est finalement adopté, en laissant en suspens, entre autres, le critère de la représentation. Et malgré les réticences à opter pour la division en deux chambres, le Sénat et l'Assemblée, le Sénat qui représente la noblesse, assembler théoriquement le peuple, donc il est certes redouté qu'elle donne naissance dans la société américaine à une opposition de classe avec le temps, les constituants américains adoptent le bicamérisme en vue de préserver la dynamique de la population. Le principe est retenu, en fait, en vue d'affaiblir les groupes d'intérêt et de filtrer la représentation. Alors, si on passe maintenant à la deuxième composante de cette révolution, justement le niveau du peuple, de la société. Comme dans tout mouvement révolutionnaire, les questionnements donc soulevés qui agitent le plan politique se retrouvent également dans une forme un petit peu distante, mais quand même très pertinente, dans la société civile. Et dans le cas américain, la solution élaborée par les constituants n'est pas en accord avec les attentes de la population. Elle n'entend pas se voir dépossédée de son droit à s'autogouverner, en le retransférant dans les assemblées représentatives. Un divorce de plus en plus net s'instaure, donc sur la période 67-86, entre les représentants et les administrés, avec d'un côté la dénonciation des dangers de la démocratie trop directe, et de l'autre, le creusement d'un hiatus entre les assemblées représentatives et les électorats locaux. L'idée radicale qui est en train de se développer en Amérique est celle d'une impuissance constitutive des gouvernements représentatifs d'incarner les attentes du peuple. Elle traduit une transformation radicale du message initial légué par l'acte révolutionnaire. Le principe républicain, qui était encore tout à fait reconnu au début, selon lequel on obéit à la loi votée par le représentant, n'est plus reconnu. Les Américains des années 80 rejettent l'idée que les assemblées d'État parlent en leur nom de façon satisfaisante. Ils deviennent des adversaires de la doctrine classique de la souveraineté législative et donc veulent reprendre le pouvoir qu'ils avaient délégué aux assemblées. On voit dès lors se multiplier les conventions, comités extra-législatifs pour discuter des constitutions adoptées par les États ou s'opposer aux lois votées, comme celle sur l'élevé d'impôts. Et lorsque les assemblées tentent de contrecarrer ces initiatives, des émeutes violentes dirigées par des comités locaux se déclenchent dans les grandes villes de Boston, New Haven, Philadelphie, Charleston, pour constituer des organisations permanentes et forcer leur reconnaissance. Donc on dit généralement que la violence n'a pas joué de mot-clé dans la révolution américaine. Il n'en reste pas moins que ces mouvements populaires menés tantôt par des leaders autodésignés, tantôt par des classes sociales, dont les conditions ne s'étaient pas améliorées avec l'acte révolutionnaire, comme les fermiers par exemple, ces mouvements populaires auraient pu, à ce moment-ci, assez critique, la faire basculer dans son inverse. Donc l'Amérique, dans les années 80, est transformée par une crise profonde de l'autorité politique. Cette période critique, qui s'étend de 83 à 87, est encore aggravée par la dépression économique qui frappe l'Amérique en 84-85. Donc, à cette période-ci, la révolution américaine semble être dans une impasse. Alors on passe maintenant au troisième, justement, à cette troisième temps qui permet à la révolution américaine de sortir de cette contradiction. L'opérateur de sortie de crise pour les Américains sera le choix d'institution d'un gouvernement fédéral. À l'initiative de la convention de 1987 réunie à Annapolis, une nouvelle réunion est décidée pour traiter des différends commerciaux entre les différents États. Sous la pression des risques de débordement des émeutes soulevées par Daniel Shea contre le gouvernement du Massachusetts, cette convention, qui se tient à Philadelphie de mai à septembre 1987, se transforme en fait en pré-assemblée constitutionnelle, comme le dit Ward. Donc, la convention réunit les tenants de deux positions adverses. Les nationalistes, entre guillemets, qu'on appellera par la suite les fédéralistes, regroupés autour d'Hamilton, qui soutiennent le Virginian Plan, prônant la nécessité d'un pouvoir central fort séparé des législatures des États, qui serait dans ces cas-là capable de les contraindre à respecter les termes de l'Union. Et de l'autre côté, les républicains, regroupés autour de Jefferson, qui soutiennent le New Jersey Plan, et qui, eux, défendent les prérogatives des États face au Congrès dans les domaines législatifs et judiciaires, tout en souhaitant néanmoins une union plus forte au sein de la Confédération. Donc la première difficulté que ce Congrès, cette Convention avait à résoudre, était la perte de légitimité des assemblées législatives. Comme l'illustraient donc les mouvements extra-législatifs, les citoyens américains entendaient placer au fondement de leur gouvernement la protection des droits politiques et privés. Cette exigence imposait de leur permettre de contrôler le pouvoir et d'infléchir la législation. Les pères fondateurs parviennent à répondre à cette exigence, entre autres, en disjoignant le droit du pouvoir et en subordonnant ce dernier à l'autorité supérieure et inviolable de la Constitution. Ils introduisent au sein de l'institution politique une norme supérieure permettant de réguler et de contrôler les gouvernements. Donc, premier point, disjonction pouvoir-droit et contrôle du pouvoir par la Constitution. Deuxième innovation, est l'introduction de la Cour suprême, qui peut être saisie sur simple requête individuelle et juge de la validité des requêtes à l'aune de la seule Constitution. Donc ce principe, encore une fois très très novateur, placer un tribunal vraiment au-dessus de toute l'institution judiciaire, sera acté, donc ce principe est acté par l'arrêt de 1803 du juge Marshall dans l'affaire Marbury contre Madison, qui affirme pour la première fois la capacité des tribunaux de juger de la conformité des lois à la Constitution. Troisième étape d'émancipation du droit et du pouvoir, la ratification en 91 des 10 amendements à la Constitution. Le Bill of Rights, qui a été vigoureusement défendu pendant tout processus révolutionnaire par Jefferson contre Hamilton, qui le jugeait superflu, qui parvient finalement à le faire voter. Et là, encore une fois, comme le souligne Anna Arendt, la possibilité d'amender la Constitution fait partie des innovations politiques introduites par les Américains, très importantes pour la société moderne, puisqu'elles institutionnalisent l'une de ses exigences fondamentales, qui est la reconnaissance du droit pour les hommes à avoir des droits opposables au pouvoir. Le choix, donc, si on passe après aux discussions vraiment concernant le gouvernement fédéral, le choix du gouvernement fédéral s'inscrit un petit peu dans la même logique argumentative. Les Républicains s'opposaient à un renforcement du pouvoir central parce que tous avaient encore en tête les dérives despotiques des monarchies européennes. L'indépendance avait été faite au nom de l'autonomie et de la liberté, et l'instauration d'un pouvoir central laissait planer le risque de développer une hypermonarchie à l'échelle du continent. Les Républicains avançaient également que les États seraient, dans le cadre de l'institution d'une autorité supérieure, les États seraient dépossédés de leur capacité de protéger leurs citoyens, puisque leur perte d'autonomie au niveau gouvernemental serait décalquée sur la société civile. La force de leurs opposants est de parvenir à répondre à ces objections en montrant qu'une institution fédérale permettrait, à l'inverse, de mieux protéger les citoyens et d'encadrer la société libre. Enfin, une société qui se dessine sous le signe de la liberté. On doit en partie cette défense de la publication papier fédéraliste par Madison, Hamilton et Jay dans divers journaux d'octobre, comme on sait, d'octobre 87 à mai 88. Si je résume très rapidement sur vraiment les arguments qui ont fait basculer le choix vers l'adoption de la Constitution fédérale, en s'appuyant sur les exigences inédites de représentation et de désincorporation de la société qui émerge lors du processus révolutionnaire, Hamilton pointe le fait que la Confédération fonctionne selon une logique corporative et non démocratique. Dans une forme confédérale, les États y légifèrent en tant que corps distinct des individus qui les composent et les citoyens doivent obéir aux décisions des délégués qu'ils n'ont pas élus. La Confédération ne respecte donc pas les attentes démocratiques du peuple américain. Et c'est à l'inverse, donc ça c'est l'argument fort de Madison, c'est à l'inverse ce que permet l'instauration d'un pouvoir central autonome. Dans cette logique, les États considèrent les intérêts de leur population en visant à accroître leur bien-être, mais, ce qui est logique, ils doivent composer avec les groupes d'intérêts au détriment de certaines catégories sociales. Le pouvoir central, quant à lui, considère exclusivement, donc je cite Madison, la personne des citoyens, les seuls objets véritables du pouvoir. Autrement dit, il appréhende les individus en dehors de toute appartenance et gouverne en toute indépendance. Il assure donc aux citoyens une protection supplémentaire. Donc, pour éviter la formation de coalition, il est préconisé qu'il se compose de membres élus disposant de mandats courts. Et la protection des droits subjectifs est renforcée par la capacité du droit de recours individuel au pouvoir judiciaire fédéral. Voilà. Donc, un autre apport, très rapidement, des débats entre fédéralistes et républicains est de parvenir à répondre à l'exigence de liberté et de reconnaissance de la pluralité des intérêts. Les Américains partagent une défiance envers le pouvoir, mais l'expérience, en particulier dans le cas du commerce, leur a montré que l'absence de régulation conduit à des injustices encore plus grandes. Toute la question était de savoir comment déterminer l'action politique pour qu'elle ne laisse pas prédominer les intérêts les plus puissants sans devenir interventionniste. Et là, encore une fois, Madison parvient à répondre à ce problème en défendant, en développant la thèse de la fameuse théorie des factions. Il soutient que le meilleur moyen de protéger la diversité des intérêts est de permettre une large liberté d'association. Donc finalement, je suis obligée de résumer vraiment très 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 rapidement, mais ces différents arguments font pencher la balance en faveur de l'adoption de la Constitution fédérale, et donc c'est l'adoption de cette Constitution qui entrera en vigueur en 88, après la ratification des États de Virginie et de New York, qui permet aux Américains de faire entrer le nouveau régime dans le cours régulier du pouvoir. Voilà. Et je m'arrêterai là. En conclusion, Donc je voudrais préciser qu'on peut qualifier de révolution politique moderne la capacité pour un peuple de mettre à bas son ancien régime et de bâtir un système institutionnel permettant d'accueillir une société libre et égalitaire. Mais, comme le montre l'exemple américain, si les révolutions modernes partagent des caractéristiques communes, elles s'inscrivent dans des contextes historiques et sociaux particuliers qui exigent le dégagement de conseils politiques et d'outils gouvernementaux spécifiques. Et elles restent essentiellement tributaires de la façon dont elles accomplissent leur processus révolutionnaire. Rien ne peut laisser présager de leur réussite ou de leur échec. Donc, on parle généralement de la révolution américaine comme d'une révolution réussie, entre guillemets, parce qu'elle parvient, dans un temps relativement court, à entrer dans le cours de l'histoire. Mais la victoire fut à l'époque très incertaine. Et si la démocratie républicaine parvient à s'installer, elle ne s'accompagne pas complètement de la révolution des mœurs qui, à l'époque, aurait dû la conditionner. La guerre de sécession de 61-65, qui divise donc la jeune République 70 ans après son instauration, aurait bien pu signer son échec. Elle a carrément divisé le pays. Donc, pour une réflexion un peu plus large donc sur le fait révolutionnaire, il faut également souligner qu'une des raisons de la réussite des Américains tient au fait qu'ils n'avaient pas à combattre un ennemi intérieur, les entraînant dans le règne du soupçon, comme ça a été le cas pour la Révolution française. La démocratie aussi, entre guillemets, puisque le terme n'est pas utilisé à l'époque, mais la démocratie à laquelle ils aspiraient a de même un sens très différent de celui qu'on lui donne, nous, aujourd'hui. Et si le facteur international a indéniablement joué un rôle dans son déroulement, celui qui travaille aujourd'hui les mouvements révolutionnaires est d'une toute autre mesure que celui qui aurait pu la frapper. Je vous remercie.
Well, let us pause briefly to reflect what we have heard really shows the difficulties of comprehending the variety of revolutions. We heard of the Tunisian Revolution, which began with a fruit vendor setting himself afire, the Bolivarian Revolution, which began with an unsuccessful military coup by a military officer, and the American Revolution, which began with merchants throwing bales of tea in the harbor off of Boston. One can add the South African anti-apartheid revolution led by a prisoner held in a remote prison. What could all of these events have done to create something we commonly call a revolution? I think there we have to turn to what Professor Tarragoni pointed out. That is, they set in train events that gave people a feeling that their relationship to the authorities and to power had been transformed. They felt that there was something radically new in their lives. How did that happen? There was a struggle between those who felt they had been entitled to power and those who challenged that entitlement. That struggle gave people the feeling of a new era beginning, a new dawn, and motivated them to join. And yet, as Professor de Mellemestre points out, that is not sufficient to complete a revolution. There's still the task of building institutions that will create order and govern effectively while still responding to the emotions and the motivations of the different people and groups who have started the revolutionary process. That's a process that's still very much in play in Tunisia. And I'm going to bring back Dr. Benachour to talk about some lessons that he would like us to learn from the Tunisian experience.